Les grands feuilletons de France Culture.
Le crime d'Orcival.
D'après l'œuvre d'Émile Gaborio. Adaptation Henri Weitzman.
Aujourd'hui, 13e épisode, une vengeance parfaite.
Résumé du 12e épisode.
Berthe a demandé à Hector de patienter avant de se déclarer chez les Courtois, puisque c'est la dot d'un million et non Laurence qui l'intéresse.
Aussi lui propose-t-elle d'épouser une dot encore plus considérable, 3 millions.
Et c'est elle-même, Berthe, qui la lui rapporterait après la mort de son mari.
Hector sursaute.
Sauf Rosie n'est pas mort.
Berthe lui montre un petit flacon.
C'est du poison. Hector, affolé, veut saisir la bouteille.
Mais elle menace de tout révéler et de le désigner comme complice.
Car elle a déjà utilisé le poison depuis que son mari est alité.
Coup de théâtre. En même temps que devant Hector, Sauvrosy rassure Berthe quant à l'héritage qu'il lui laisse.
Il l'accuse de l'empoisonner.
Mais il tient sa vengeance.
Trémorel épousera sa veuve.
Au château du Val-Feuillu.
Mes empoisonneurs, on a du mal à trouver ces mots. Tu es bien pâle, monsieur le comte de Trémorel.
C'est moi qui ai tout fait. Il est innocent.
Vraiment, Hector est innocent. Ne me devant non pas la vie, car il est bien trop lâche pour se tuer, mais son honneur. Il me remercie en prenant ma femme. Et il est innocent. Si encore tu l'avais aimé. Mais non, Hector, mon propre bonheur te faisait envie. Tu m'en voulais d'être heureux. Berthe n'était que l'instrument de tes rancunes. Et aujourd'hui, elle te pèse et tu la crains. Voilà, Berthe. Voilà l'homme que tu m'as préféré et pour lequel tu m'as trahi. Tu as cru l'aimer, mais comment à la longue le dégoût ne te viendrait-il pas? Ainsi donc vous allez être libre. Mais vous vous haïrez. Vous vous haïssez déjà. Tu as eu ton bonheur entre tes mains, Berthe. Et tu l'as brisé comme une enfant brise le jouet dont il ignore la valeur. Qu'attendais-tu de ce misérable pour lequel tu as eu l'affreux courage de me tuer, le baiser aux lèvres, doucement, lentement, heure par heure? Regarde-le. Et juge-nous. Vois quel est l'homme. De moi, étendu sur le lit, où je vais rendre le dernier soupir. Et de lui qui agonise de peur dans son coin. Du crime, tu as l'énergie. Il n'en a que la bassesse. Ah, si je m'appelais Hector de Trémorel. Et qu'un homme eût osé parler comme je viens de le faire, cet homme n'existerait plus. Est-il pour se défendre 10 revolvers comme celui que je tiens? Berthe, aide-moi à me soulever. Oh. t'avais dit que j'avais soif. Le médecin m'a permis un peu de vin vieux. Apporte-moi deux doigts dans un petit verre. Mais sans poison. Cela en détruirait la saveur. Il est vrai qu'il va pourtant falloir me donner du poison tout à l'heure. Pour m'aider à mourir.
Non, Clément, non, grâce, grâce. Je veux que tu vives pour que je puisse racheter le passé. Je suis une infâme, j'ai commis un crime abominable. Je ne mérite plus d'être ta femme. Mais tu es bon. Je te demande de me laisser être ta servante. Je m'humilierai. Je te servirai à genoux, je t'aimerai. Et je ferai tant qu'un jour, après des années et des années d'expiation, tu me pardonneras.
Pardonner ? Pardonner ? Avez-vous eu pitié de moi depuis 15 jours que vous mêlez du poison à toutes mes tisanes ? Pardonner ? Pourquoi pensez-vous que j'ai pris soin de dérouter les médecins ? Pour vous donner ma bénédiction au moment des suprêmes adieux ? Non. Je me venge et je me venge en vous mariant.
Mais c'est nous !
Oh, mes précautions sont prises et vous ne sauriez m'échapper. Écoutez-moi donc. Dès que j'étais certain du poison, j'ai commencé par écrire notre histoire très détaillée à tous les trois. J'ai de plus tenu, jour par jour, heure par heure pour ainsi dire, un journal relatant très exactement la lente progression de mon empoisonnement. Enfin, j'ai recueilli de ce poison que vous me donniez. Toutes les fois que Berthe m'apportait une potion, une boisson suspecte, j'en gardais une gorgée dans ma bouche et fort soigneusement je crachais cette gorgée dans une petite bouteille cachée sous mon traversin. Et si j'ai pu faire toutes ces choses sans que personne s'en aperçoive, c'est que les malices de la vengeance sont plus fortes que les perfidies de l'adultère. Mais finissons-en. Mes forces s'épuisent. Donc, aujourd'hui même, cette bouteille contenant du poison, notre biographie et la relation de mon empoisonnement ont été remises aux mains d'un homme sûr et dévoué que vous n'arriveriez pas à corrompre si vous le connaissiez. Assurez-vous, il ignore la nature du dépôt. Le jour où vous vous marierez, cet ami vous rendra le tout. Si au contraire, dans un an, jour pour jour, vous n'êtes pas marié, il a ordre de remettre le dépôt confié à son honneur entre les mains du procureur impérial. Et songez-y, le paquet remis à la justice, c'est le bagne pour vous. Sinon, l'échafaud. Je ne peux pas tout dire encore. Vous allez voir si j'ai tout calculé, tout prévu. Moi mort, l'idée vous deviendrait peut-être de fuir, de passer à l'étranger. C'est ce que je ne permettrai pas. Un ami, dont celui qui a reçu le dépôt, un autre, chargé sans en savoir la raison, de vous surveiller, si bien de vous, retenez bien mes paroles, disparaissez 8 jours, dès le lendemain, c'est-à-dire le 9e jour, l'homme du dépôt recevrait une lettre qui le déterminerait à aller prévenir immédiatement le procureur impérial. D'ailleurs, je me suis arrangé pour que cette tentation ne soit pas trop forte. Je laisse, il est vrai, toute ma fortune à Berthe. Mais en usufruit seulement. La nue propriété ne lui appartiendra que le lendemain de votre mariage.
Mais la copie du testament.
Inutile, ma petite. Les mots que j'ai ajoutés devant vous sont sans valeur. Mon testament, le vrai, celui qui est déposé chez le notaire d'Orcival et qui vous sera communiqué, porte une date postérieure de 2 jours. Tenez. En voici le bouillon. Atteint d'une maladie qui ne pardonne pas, j'exprime ici librement mes volontés dernières. Mon vœu le plus cher est que ma bien-aimée veuve épouse aussitôt que les délais légaux seront expirés mon cher ami, le comte Hector de Trémorel, Ayant été à même d'apprécier la grandeur d'âme de ma femme et de mon ami.
Non, assez, je t'en supplie.
Je sais qu'ils sont dignes l'un de l'autre. Je meurs plus tranquille, sachant que je laisse à ma Berthe un protecteur éprouvé.
Je n'en puis plus, grâce, grâce.
Soit. Inutile de poursuivre. Vous constaterez seulement que si d'un côté j'ai tout fait pour assurer l'exécution de mes volontés, de l'autre, j'ai tout fait pour vous conserver la considération du monde. Oui, je veux que vous soyez estimés et honorés. C'est sur vous, seul, que je compte pour ma vengeance.
Clément.
Tiens, il ne sait encore parler, celui-là.
Pour te dire que tu n'as oublié qu'une chose. On peut mourir.
Pardon, j'ai bien prévu le cas. Si l'un de vous venait à mourir brusquement avant le mariage, le procureur impérial serait alerté.
Tu te méprends, j'ai voulu dire. On peut se tuer.
Toi, te tuer. Allons donc. Jenny Fancy m'a éclairé sur la portée de tes menaces de suicide. Te tuer. Chiche, voici mon revolver, tiens. Brûle-toi la cervelle et je pardonne à Berthe. Oui, je pardonne à ma femme. Tu entends? Je lui donne mon entier pardon. Tiens! Alors, tu vois, je le savais bien. Tu as peur. Voilà ton amant, Berthe. Tu peux laisser couler tes larmes. Elles vont être utiles pour le dernier acte à jouer. Hector, va appeler les domestiques. Tous, qu'on fasse lever ceux qui sont couchés. Je veux les voir avant de mourir. Qu'est-ce que tu attends? Veux-tu que je tire un coup de pistolet pour attirer toute la maison?
Clément! Clément!
Que veux-tu?
Hector ne saurait pas mourir, mais moi!
Quoi? Que veux-tu dire? Parle.
C'est moi qui te tue. Je ne te survivrai pas.
Oui, je le sais. Le courage ne te manquerait pas à toi, au dernier moment. Tu es libre. Ce sera un dernier sacrifice à ton amant. Toi morte, Trémor, elle épousera Laurence Courtois. Et dans un an, il aura tout oublié. Même notre nom.
Ça, jamais. Chez le juge de paix, Monsieur Planta.
Le reste, messieurs, vous le savez. Les domestiques, tous réunis autour du lit de Sauvrosy qui va bientôt rendre le dernier soupir. L'agonisant qui a encore la force de prononcer devant eux l'éloge de sa femme et de son ami, à qui il a fait jurer solennellement de respecter ses dernières volontés et de s'épouser après sa mort? Cette étrange cérémonie vous a été rapportée par le maire Courtois lors du premier interrogatoire du juge d'instruction Domini.
Un homme crâne, ce Sauvresy. Je n'en connais pas beaucoup capable d'une si effroyable fermeté.
Il a su se venger.
Oui, docteur, oui. Il a su se venger. Et plus terriblement encore qu'il ne le supposait et que vous ne sauriez l'imaginer.
Notre cher juge de paix voudra bien m'excuser. Non. Mais pour ma part, je me fais très bien une idée de l'existence infernale qui a commencé pour les empoisonneurs. Vous nous avez esquissé leur caractère de main de maître. Après votre récit si détaillé, on les connaît comme si on les avait étudiés depuis 10 ans.
Oh. Je sais que le corps de Sauvresy n'était pas refroidi, que les criminels en étaient déjà échangés les injures et les menaces. Berthe ne pouvait pardonner à Hector de n'avoir pas pris le revolver tendu par son mari, de ne pas s'être tué. Elle croyait, et peut-être avec raison, que son mari lui aurait accordé son pardon.
Mais dites-moi, le public n'a jamais rien su de cette guerre intérieure?
Ni rien soupçonné.
Oh.
Eh, jamais dissimulation ne fut plus habile. Interrogez n'importe quel habitant d'Orcival, il vous répondra, comme ce brave monsieur Courtois au juge d'instruction. Il vous répondra que le comte et la comtesse étaient des époux modèles, et qu'ils s'adoraient. Moi-même, j'ai presque été pris, moi qui savais ce qui s'était passé.
Qui savait?
Qui s'en doutait, vais-je dire. Enfin, les criminels châtiés, tout serait pour le mieux si Sauvresy, n'ayant que l'idée fixe de sa vengeance, n'avait lui-même commis une imprudence que je regarde comme un crime.
Un crime? Un crime, Sauvresy?
Laurence, n'est-ce pas?
Oui, monsieur Lecoq. Oui. Laurence.
Comment ça?
Sauvresy a commis une mauvaise action le jour où il a songé à faire de cette malheureuse enfant l'instrument de ses colères. C'est lui qui l'a jetée entre ces deux êtres exécrables sans se demander si elle n'y serait pas brisée. C'est avec le nom de Laurence qu'il a décidé Berthe à vivre. Et cependant, il savait l'amour de cette jeune fille pour Trémorel. Il savait que celui-ci était capable de tout. Sauvresy avait tout prévu, sauf que Laurence pouvait être séduite et déshonorée. Et il l'a laissée sans défense devant la séduction du plus lâche des hommes.
Je me demande pourquoi les deux complices ne se sont pas séparés d'un commun accord le lendemain de leur mariage, puisqu'ils étaient alors rentrés en possession du document qui établissait leur crime.
Je n'ai pas dû vous faire bien comprendre le caractère de Berthe. Hector, lui, eût accepté avec transport et joie une séparation. Sa femme, elle, ne pouvait pas y consentir. Elle sentait sa vie perdue, les remords la déchiraient, lui fallait une victime, une créature à qui faire expier ses propres forfaits. Cette victime était Hector. Pour rien au monde, elle n'aurait lâché sa proie.
Tout de même, tout de même. Enfin, votre Trémorel est par trop pusillanime. Enfin, dites-moi, qu'avait-il tant à redouter une fois le manuscrit anéanti?
Mais qui vous dit qu'il l'ait été?
Là est le hic.
Oh ben alors.
Les preuves ont-elles ou n'ont-elles pas été anéanties? Enfin, pour moi, pour l'instruction, tout est là.
Savez-vous qui était le dépositaire choisi par Sauvresy?
Oui. Ce dépositaire, c'était vous, monsieur le juge de paix. Je n'ai pas attendu bien longtemps pour comprendre d'où venaient vos informations si détaillées.
Eh oui, c'était moi. Le jour du mariage de madame veuve Sauvresy et du comte Hector, me conformant aux volontés de mon ami mourant, je me suis rendu au Valfeuillu où j'ai remis à Berthe le dépôt qui m'avait été confié. Elle me prit le paquet renfermant le flacon funeste et le manuscrit, et puis, très aimable, me remerciant beaucoup, elle sortit aussitôt. À l'instant, la contenance du comte qui était à ses côtés changea. Il me parut très inquiet, très agité. Je voyais bien qu'il brûlait de s'élancer sur les pas de sa femme et qu'il n'osait pas. J'allais me retirer. Mais il n'y tenait plus. « Pardon, me dit-il brusquement. Vous permettez, n'est-ce pas? Je suis à vous dans l'instant. » Et il sortit en courant. Lorsque je le revis ainsi que sa femme quelques minutes plus tard, ils étaient fort rouges l'un et l'autre. Ils venaient certainement d'avoir une altercation de la dernière violence.
Et le reste se devine. Elle était allée, la chère dame, mettre en sûreté le manuscrit du défunt. Et quand son nouveau mari lui a demandé de le lui livrer, elle a dû répondre « Cherche !»
Sauvrosy m'avait bien recommandé de ne remettre le paquet qu'entre ses mains à elle.
C'est ainsi qu'elle tenait de Trémorel.
Jusqu'au jour où il l'a tué.
Mais reste à élucider l'affaire du poison. Sans doute facilement, puisque celui qui l'a vendu est là, dans ce cabinet.
Oh, d'ailleurs, pour ce qui est du poison, j'en fais mon affaire. C'est dans mon laboratoire que ce gredin de Roblot l'a volé. Je travaillais sur l'aconite lors de la mort de Sauvrosy. Et c'est avec de l'aconitine qu'il a été empoisonné. Oui.
Et c'est la première fois que je rencontre ce poison-là dans ma pratique. C'est donc une nouveauté?
Oh non, non, pas précisément. C'est de l'aconite, dit-on, que Médée extrayait ses plus effroyables toxiques. Et Rome et la Grèce l'employaient concurremment avec la ciguë, comme agent d'exécution judiciaire.
Oui, enfin, légendaire ou réel, le poison de Médée a dû être perdu comme celui des Borgia.
Non, il n'a pas été perdu, si c'est celui-là. Grâce aux expériences de Matthiole sur les forçats au XVIe siècle, grâce aux travaux de Hertz, qui en 1833 est parvenu à isoler le principe actif, l'alcaloïde, et enfin grâce aux essais de Bouchardba qui lui prétend...
Mais écoutez, je vous demande pardon d'interrompre votre cours magistral passionnant.
Pardon.
Mais j'ai besoin de savoir, pour ce qui nous intéresse ici, si l'on retrouverait des traces d'aconitine dans les restes d'un cadavre inhumé depuis 2 ans.
Ah ben justement, attendez, voilà. Bouchardba, que je viens de citer, a bien proposé l'iodure de potassium ioduré, qui donnerait un précipité orange, mais... cette expérience n'a pas vraiment donné satisfaction. Voilà.
C'est bien contrariant.
Allez, rassurez-vous, le procédé n'existait pas. Je l'ai inventé.
Ah, j'y suis. Vous voulez parler de votre papier sensibilisé?
Précisément.
Et vous voulez dire que vous retrouveriez de l'aconitine dans le corps de Sauvrosy?
Monsieur l'inspecteur, je retrouverais 1 mg d'aconitine dans un tombereau de fumier.
Oh, très bien, Jean.
Mais alors, si cela est... notre instruction est à présent complète. Les antécédents exposés par monsieur le juge de paix nous donnent la clé de tous les événements qui suivent la mort du malheureux Sauvrosy. Mais ainsi s'explique la haine des époux si bien unis en apparence et le fait que le comte ait fait sa maîtresse d'une jeune fille richement dotée.
Hélas.
Mais si Trémorel a tué sa femme, c'est qu'il a été contraint de le faire par la logique des événements. Et il est clair que c'est mademoiselle Courtois qui a mis fin aux éternelles irrésolutions de son amant. En apprenant la grossesse de sa maîtresse, ce misérable s'est senti perdu. Il a vu sa terrible épouse se livrant elle-même à la justice pour avoir le bonheur de le livrer aussi. Épouvanté, il s'est décidé au meurtre. Oui.
Je pense que vous ne croyez pas à la complicité de mademoiselle Courtois, le coq.
Non, Dieu me préserve d'une pareille idée, non. Oh. Non, docteur, non. Mademoiselle Courtois a ignoré et ignore le crime. Mais elle sait que Trémorel abandonnerait sa femme pour elle. Cette fuite avait été convenue, discutée, arrêtée. Il s'était donné rendez-vous pour un certain jour à un endroit déterminé.
Oui, oui, mais enfin, cette lettre de la jeune femme à ses parents.
Je suis perdue, déshonorée. Je suis enceinte.
Cette lettre qui plonge toute une famille dans la douleur, qui tuera peut-être le pauvre Courtois, n'est qu'une scène de la comédie imaginé par le comte.
Ah oui, et moi je suis de l'avis de Plantard. Hier au soir, chez le maire, nous avons eu en même temps le même soupçon. La lettre de mademoiselle Laurence n'est pas d'elle. Elle a copié un texte écrit par Trémorel.
Quand cette lettre vous sera remise, j'aurai cessé d'exister.
Mais cependant, comment imaginer qu'il ait pu réussir à décider mademoiselle Courtois à cet abominable expédient?
Oh, vous savez... une jeune fille dans la situation de Laurence Courtois, qui voit approcher le moment fatal où sa honte sera publique, ne s'appartient plus.
Oui, c'est possible.
Elle doit être décidée à tout, prête à tout, même à mourir.
Mais oui, certainement, elle a songé à mourir.
Eh bien, tenez, c'est au moment où une telle pensée hantait l'esprit de la pauvre enfant que le comte Hector a pu facilement achever son œuvre de perdition.
Je saurais mettre un terme à mes misères et à mon désespoir.
Finalement, il l'a poussée à abandonner sa famille.
Oui.
à faire croire à son suicide, pendant que lui, de son côté, déserterait sa maison, quitterait sa femme. Elle a sûrement résisté.
Oh oui, Lecoq, oui, elle a résisté, oui.
Mais ne devait-il pas lui arracher les plus invraisemblables consentements en évoquant l'enfant qu'elle sentait vivre dans son sein, et qu'ils élèveraient ensemble, et qui aurait ainsi un père?
Ah oui, tels ont dû être, en effet, les moyens de séduction employés.
Mais fallait-il qu'il fût niais et maladroit, ce rusé personnage, pour ne pas penser qu'infailliblement on remarquerait cette bizarre coïncidence entre la disparition de son cadavre et le suicide de Mademoiselle Courtois? Car il s'est dit, on me croira bel et bien assassiné, tout comme ma femme. Et la justice ayant son coupable avec Gaspin, n'en demandera pas davantage.
Oh, ne pas savoir où le misérable se cache pour lui arracher Laurence.
Non, rassurez-vous, rassurez-vous, ami planteur. Nous le retrouverons, ou je ne m'appellerai plus Lecoq.
Merci, ami.
Et pour être franc, je vous avouerai que la tâche ne me paraît pas tellement difficile.
Oh, tout
non, mais n'oublions pas que le juge d'instruction, M. Domini, nous attend à Corbeil et nous avons passé la nuit à faire la lumière sur cette ténébreuse affaire.
Oui, oui. Aussi bien, ne partons pas sans nous restaurer. Oui, j'entends Madame Petit qui s'affaire. Elle a dû nous préparer un bon petit déjeuner. Allons-y.
Allons-y.
Oui.
Ah, je ne pensais plus à ce coquin de Roblot qui doit lui aussi avoir besoin de se mettre quelque chose sous la dent. Et je vais d'abord lui rendre une petite visite.
Oui, faites, Lecoq. Allez. Quelle histoire, écoutez, quelle histoire. Les drames.
Monsieur!
Oui!
Qu'y a-t-il?
Monsieur!
Quoi?
Qu'y a-t-il?
Roblot s'est suicidé.
Pourquoi Roblot s'est-il suicidé? Monsieur Lecoq va l'élucider.
C'était, d'après l'œuvre d'Émile Gaborio, adapté par Henri Weitzman,
le 13e épisode du crime d'Orcival.
Avec Jacques Charby, Yves Fabrice, Gérard Lartigot, François Martouret, Fred Persson, Emmanuel Weiss.
Bruitage Dominique Aubert, chef opérateur du son Guy Senot, collaboration technique Edwige Philipponat, assistant de production Didier Lagarde, réalisation Jeanne Rollin-Weiss.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 27 août 1984. Demain, à la même heure, Lecoq marque des points. D'ici là, vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger tous les épisodes de la série sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.